vendredi comme on les aime, c'est ensoleillé et ce sera ça toute la journée. Il est 7h33 dans les prochaines minutes. On sera en mesure de se brancher avec Jacinthe Varel qui va venir faire son tour. Elle va nous parler de la semaine politique au provincial, la première semaine de Charles Milliard, la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. On va faire un beau tour. On va parler aussi de Simon-Jolin Barrette qui a décidé de retirer le droit à l'avortement de son projet de constitution, ce qui est une très, très bonne nouvelle.
OK, là, pour, oui.
Toutes les femmes au Canada et toutes les alliées, si on mettait ça dans un projet de constitution, ben ça aurait permis aux pros, aux religieux, tiens, aux pro-vie de challenger cet article-là. Et là, on aurait pu avoir d'autres problèmes qui s'ensuit. Donc, Simon-Jolin Barrette qui a décidé de retirer le droit à l'avortement de son projet de constitution. Selon la plupart des gens, c'est une très, très bonne nouvelle. Sinon, ben là, on va aller se brancher avec notre ami Luc Laliberté, qui est chroniqueur en politique américaine. Salut Luc, comment ça va?
Ça va très bien, vous deux.
Ça va bien. Merci beaucoup pour le podcast qu'on a fait ensemble de 60 minutes. Beaucoup de gens ont apprécié ce podcast-là, puis j'ai été, pas que j'ai été surpris, mais j'ai été agréablement surpris de voir à quel point les gens t'apprécient, Luc.
Ah, écoute, d'abord, un grand merci. Quand on fait ce travail-là, on espère que les gens sont au rendez-vous puis qu'on livre la marchandise, mais c'est toujours une passion, c'est un grand plaisir. Puis écoute, c'était une très belle conversation avec toi, c'était très décontracté. Puis en même temps, on a passé de l'info, donc on a expliqué des choses. Donc c'est toujours fort agréable, j'adore ce genre de formule-là.
Ben, on va récidiver dans les prochaines semaines, si tu le veux bien, parce que les auditeurs t'ont apprécié, fait qu'on va leur donner ce qu'ils veulent. Hey, on s'en va dans un épisode d'X-Files. Moi, je me transforme en Mulder. Jeff, il ressemble pas à Scully,
mais c'est pas grave.
On peut le voir comme Scully. Là, mon président, qui était là il y a de ça quelques années, Barack Obama, aurait divulgué des informations classées top secret en admettant croire aux extraterrestres. On est dans un épisode d'X-Files, Luc.
Écoute, c'est quand on dit, hein, depuis que... Ben, ça remonte au premier mandat Trump, mais c'est vrai pour Trump 2.0 également.
Ouais.
Quand on dit que parfois la réalité dépasse la fiction... Donc, d'abord, je ne verrai plus jamais Jeff de la même façon. Là, j'arrive pas à m'enlever cette image-là de ma tête.
Jeff est un peu moins belle que la vraie Scully.
Ouais, un petit peu.
Je pense que c'était Gillian Anderson.
J'ai oublié de m'épiler le visage.
Mais écoute, je pense que l'occasion était trop belle pour le président Trump de ne pas faire une nouvelle diversion, de ne pas nous entraîner ailleurs que dans ce dont on devrait parler en priorité. Il y a de véritables problèmes aux États-Unis, ils sont graves. Il y a de véritables problèmes pour le président lui-même. Il suffit de regarder les sondages. Et tout ça vient d'une phrase, je ne sais pas s'il faut même dire maladroite. Barack Obama est invité dans un podcast qui s'appelle « No Lie » avec Brian Tyler Cohen. Et on est dans une espèce de séquence, en anglais on appelle ça « rapid fire ». C'est, je te pose une question, tu me réponds brièvement, puis on enfile les questions. Et à la question sur les extraterrestres, est-ce qu'ils existent, Barack Obama prend la peine de répondre très vite, oui. Oui, en précisant que lui n'en a pas vu. Puis quand il a vu tout le branle-bas de combat après sa déclaration, Barack Obama est venu repréciser un peu ce qu'il voulait dire. Puis grosso modo, ce qu'il dit, c'est ce qu'à peu près tous les astrophysiciens, à ma connaissance, défendent. C'est que dans notre univers qui est immense, sans fin, il y a de bonnes chances qu'il existe d'autres formes de vie. Les chances qu'on les croise un jour, elles sont bien minces, mais c'est pas plus controversé que ça. Si ce n'est pas Barack Obama, puis si ce n'est pas un ancien président, il y a personne qui parle de ça, ou à peu près. Maintenant, Donald Trump, donc, récupère la balle au bon en disant « Ah! Il a été président, il a eu accès aux dossiers secrets, aux dossiers confidentiels. » On jase beaucoup de ça, d'objets volants non identifiés depuis des années aux États-Unis.
Mais des objets volants non identifiés, il en existe depuis la nuit des temps. Là. Ça s'appelle des objets volants non identifiés. Ce que nous, on peut appeler des drones, si tu envoies ça dans un endroit où ils n'ont jamais vu de drone, ils vont dire que c'est un extraterrestre. C'est un objet volant non identifié.
Voilà, mais il y a 44 % des Américains qui sont convaincus que leur gouvernement leur cache des choses. Et rappelle-toi, historiquement, dans les films américains, ce qu'on nous montrait, c'était la fameuse zone 51.
Ouais.
C'est là où on conserverait, hein, un extraterrestre. Et, Et ça a été très drôle de voir. C'est drôle et pas en même temps, parce qu'il y a des choses très sérieuses derrière ça, mais ce qui est drôle, c'est de voir la fascination pour ça. Et ça fait partie des nombreuses théories du complot qui ont circulé depuis des années, puis qui font qu'on a moins confiance, ça reste un indicateur du fait qu'on a moins ou pas confiance dans notre gouvernement pour nous dire la vérité. Et parfois, on a bien raison. On a caché, dans ce cas-ci, ce sont les Américains, on a caché dans différents domaines des informations, puis on a fini par apprendre des années plus tard ce qu'il y avait en dessous. Mais est-ce que ça mérite la sortie de Donald Trump? Et Donald Trump qui dit « on va aller plus loin avec ce dossier-là », on va divulguer toutes les informations confidentielles. Si Donald Trump allait de l'avant, une chose importante à savoir, c'est qu'il ne ferait qu'accélérer une loi qui a été passée, l'application d'une loi qui a été passée sous Joe Biden. En 2023, on a créé un bureau spécial dans lequel on dit on va étudier ces phénomènes-là parce qu'on a de plus en plus de témoignages au Congrès de pilotes de chasse, par exemple, qui disent on a vu des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une force extraterrestre au sens où on l'imagine, mais il y a des pilotes de chasse qui ont carrément témoigné. Il y a des phénomènes qu'on n'est pas en mesure d'identifier. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que des pays avec lesquels on est en rivalité, comme la Chine, ont développé des technologies avec lesquelles nous, on est moins familiers, puis que ça provoque de la confusion? Donc, il y a ce bureau spécial et il y a une loi qui obligeait la préservation de documents, de films, etc., et éventuellement la divulgation d'informations sur tous les phénomènes anormaux non identifiés. Donc, cette loi-là était déjà en place en 2023. Ce qu'on ne parvenait pas à déterminer, c'est quand est-ce qu'on allait divulguer le volet divulgation de l'information, quand est-ce qu'on allait le faire? Et au départ, on envisageait un horizon de 25 ans. C'est souvent avec les archives, une sorte de cadre à peu près normal. Donc, on disait, on se laisse une période pour analyser, travailler là-dessus, puis être certain qu'on ne partage pas non plus d'informations militaires particulières. Mais voilà que Donald Trump, lui, accélérerait ce processus-là. Mais je répète, ça me semble être, à la lumière des informations dont on bénéficie, rien d'autre qu'une gigantesque diversion où Donald Trump, une fois de plus, va exploiter la crainte des Américains que leur gouvernement leur cache quelque chose. Ça donne bien, parce qu'avec le dossier Epstein, les Américains, à plus de 44%, sont convaincus qu'on leur cache plein de choses.
Ben oui,
il y a des poursuites à l'international, il y a des gens qui ont démissionné, des présidents de compagnie. Mais aux États-Unis, il semble qu'il ne se passera rien avec tout ce qu'on a fourni d'informations autour des dossiers Epstein. Donc, ça a toutes les allures. Désolé pour X-Files. X-Files va rester, je pense, une meilleure série à écouter et à regarder.
T'as peu. Tu ne changeras pas de sujet comme ça, là. le Mulder en moi dans la série X-Files va te poser cette question-ci. Si Barack Obama n'avait pas répondu que les extraterrestres, selon lui, existent, Trump n'aurait pas dit qu'il avait divulgué des informations top secrètes. S'il avait dit non, Trump n'aurait pas pu rien dire. Donc, si Barack Obama dit que les extraterrestres existent, c'est peut-être parce que les extraterrestres existent!
Mais d'après les astrophysiciens, ils existent.
Oui, mais il n'y a personne qui en a jamais vu.
Ben voilà! C'est là où ce qu'on regarde, c'est en termes de calcul, d'évaluation et de probabilité. Donc, je sais que ça, c'est tannant pour Donald Trump, c'est il a dit que les scientifiques étaient tous un peu bêtes ou un peu naïfs, mais entre un astrophysicien sur les extraterrestres et Donald Trump, là, je vais confesser un biais évident. Je vais préférer l'astrophysicien à la parole de Donald Trump.
Je comprends pas. Je pense qu'on est tous à la même place.
Je suis malhonnête comme ça.
On est tous à la même place que toi. Trump qui menace l'Iran et qui positionne maintenant des troupes au Moyen-Orient. Pourquoi on en est rendu là? Puis qu'est-ce que tu crois qui pourrait arriver?
Ah, écoute, la boule de cristal est encore un peu floue là-dessus. Qu'est-ce qu'il va arriver? On va voir. Je ne serais pas étonné que le président effectue un repli dans ce dossier-là. En même temps, le risque, il est bien réel, puis le risque de tension. Pourquoi on en parle plus maintenant dans l'ensemble des informations sur les relations entre l'Iran et les États-Unis? D'abord, l'Iran et les États-Unis se parlent, on négocie, mais il semble que les progrès soient très, très, très lents autour de la table. Donc, que les Américains seraient encore loin d'obtenir de l'Iran ce qu'on souhaitait obtenir. Donald Trump a mis très récemment de la pression en disant « Je nous laisse quoi, une quinzaine de jours pour arriver à de meilleurs résultats? » Puis là, il a un peu rétréci l'écart en disant « Je prends ma décision dans 10 jours. » Pourquoi serait-il prêt à attaquer l'Iran maintenant? Parce que ça a circulé ça, cette semaine énormément. Il y a 2 facteurs surtout qui ont changé. D'abord, Donald Trump, regarde, il sait très bien, d'ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté avec la simple menace d'une frappe américaine. Donc, Donald Trump sait qu'il y aurait probablement, pendant un temps, une hausse du prix du pétrole si on procédait de la sorte. Mais son entourage, j'ai écouté, les prix sont relativement faibles et relativement stables. Si on frappait maintenant, il y aurait une hausse, mais probablement une hausse moins forte que ce qu'on aurait anticipé à un autre moment. Donc, on dit, c'est peut-être le bon moment, considérant la stabilité du marché, de le faire pour éviter une plus grosse hausse des coûts. L'autre chose, c'est que l'administration Trump sent sur le terrain que l'Iran, le régime iranien, est probablement plus fragile qu'à n'importe quel autre moment. Donc, on a frappé contre la population a défié les autorités. Défier les autorités en Iran et marcher dans la rue, là, c'est vraiment risquer sa vie régulièrement, sa vie et celle de ses proches. Il y a un nombre de morts, d'ailleurs, considérable qui en témoigne. Donc, on dit le régime est stable. Puis, j'ajouterais peut-être aussi un autre facteur qui, ces semaines-ci, inciterait l'administration américaine à frapper. C'est ce qu'on appelle les proxies, les alliés régionaux des Américains. Ils sont affaiblis. Donc, les outils, par exemple. Quand on regarde ceux qui, dans la région, pourraient venir en aide à l'Iran, ils ont été affaiblis depuis 1 an ou 2. Donc, on dit, ben, c'est peut-être pas bête du côté américain de risquer ça. Maintenant, si les Américains devaient frapper, je répète, ce n'est pas impossible. Il y a d'autres joueurs autour de la table que les joueurs régionaux. Donc, ça va avoir quel impact à plus grande échelle? Et là, j'ai envie de te dire, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un pays comme la Chine, est-ce qu'un pays comme la Russie, est-ce que ces deux pays-là sont prêts à entrer dans un conflit ou à soutenir militairement l'Iran? À la lumière des informations dont on dispose, j'ai envie de te dire, ils ne sont pas prêts à aller jusque-là. Et ce serait une porte ouverte pour l'administration Trump. Maintenant, si on frappait, est-ce que les Américains sont prêts à vivre avec les conséquences? Est-ce qu'un président qui a été élu en disant « Moi, je ne ferai pas la guerre, je n'embarquerai pas dans ce jeu-là. Les démocrates et Biden nous ont plongés ou entretenus en guerre. Là-dessus, il y aurait des précisions à donner, mais c'est la formulation de Donald Trump. Donc, Donald Trump devrait s'assurer, en tout cas, de limiter les risques d'escalade dans cette région-là. Mm-hmm. On l'a répété bien des fois avec l'expression « poudrière ». Donc, déplacer un pion dans la région, c'est très difficile de savoir la réaction de tous les autres joueurs dans ce secteur.
Oui, puis là, il y a certains désavantages aussi à faire une deuxième attaque après celle contre le Venezuela, parce que là, à un moment donné, la Russie et la Chine n'auront pas le choix de bouger, ils ne pourront pas toujours rester les bras croisés. Et en parallèle aussi avec son comité de paix pour la reconstruction de Gaza, là, qui est tout près.
Oui. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est pour placer ça aussi dans le contexte de la politique de sécurité nationale des États-Unis. Grosso modo, ce que Trump et ce que les Américains disaient, cette administration-là dans la politique de sécurité nationale, c'est Cuba et le Venezuela, c'est une autre histoire. On avait dit ça fait partie de notre zone d'influence.
Ouais, c'est vrai.
On veut pas des Chinois, on veut pas des Russes, on veut pas de puissance étrangère. C'est entre guillemets l'Amérique aux Américains.
La Down Road.
C'est ça, la Monroe Doctrine. Hein, c'est adaptation ou récupération de la doctrine Monroe, qu'on a surnommé maintenant Monroe. Maintenant, les Américains avaient dit, on se garde le droit aussi dans cette politique de sécurité nationale d'intervenir stratégiquement à certains endroits. Et l'Iran, ben, on peut se dire, bien sûr, c'est pas l'Amérique, mais en même temps, il y a peut-être des intérêts stratégiques régionaux de forcer un changement de régime. Mais encore là, je répète, c'est comme le Venezuela. Au Venezuela, il n'y a pas eu vraiment de changement de régime. On a sorti Maduro, puis on a maintenu le groupe en place pour gérer le pays. Puis on peut dire que les Américains n'ont pas envie de gérer le Venezuela non plus. On veut avoir le Venezuela, entre guillemets, de notre côté, c'est-à-dire qu'on veut qu'on collabore de manière forcée, c'est clair, avec les Américains. Maintenant, est-ce qu'on est capable de répéter le même geste pour l'Iran? Donc, à suivre ce dossier-là. On parlait de boule de cristal dans ta question, Yannick, tout à l'heure. J'ai envie de te dire, je pense qu'on n'attaquera pas, qu'on ne mettra pas le doigt dans l'engrenage. Mais en même temps, s'il y a un moment où c'est intéressant pour les Américains de le faire, ça demeure très risqué, mais peut-être moins que dans une autre période. c'est pas impossible que Donald Trump décide d'aller de l'avant.
Luc, la liberté, il reste une minute. Le prince Andrews qui a été arrêté et relâché. Donald Trump qui s'est prononcé en disant que, bon, l'histoire du prince Andrew avec Epstein, c'était très, très triste. Là, puis il avait bien de la peine pour son frère Charles, qui est une bonne personne, qui est le roi d'Angleterre. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact là, sur le prince Andrew? Je veux dire, c'est quelqu'un qui, visiblement, était mis de côté par la famille royale. Ça va-tu aller plus loin pour lui? Ben, nécessairement, il pourrait peut-être ultimement faire de la prison, mais ce n'est pas les dossiers sexuels qui lui étaient reprochés. Là.
Non, voilà. Dans ce cas-ci, c'est différent. C'est-à-dire que ça vient de la nouvelle fournée de documents du dossier Epstein qu'on a eu. Cette fois-là, ce sont des échanges de courriels qui remontent à l'époque où, ça aussi, ça va peut-être étonner les auditeurs, la famille royale a parfois un véritable rôle. Nous, on les voit plus hein, comme... vedette d'un musée, d'un gigantesque musée, mais il a été représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce international. Et pendant cette période-là, Jeffrey Epstein, qui était dans le trafic sexuel, mais aussi en business, dans les affaires, le prince Andrew aurait partagé des renseignements confidentiels sur